Gagnard pour son nouveau roman « Les solidarités mystérieuses » chez Gallimard.
Moi, ce que j'aime toujours chez Pascal, c'est une sorte d'ouverture qu'on n'imagine pas.
Les liaisons heureuses, demain, à partir de 15h. France Inter, la différence.
Il est 15h03 sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Voilà, je suis en train de regarder le président à la télévision en direct. Mais pourquoi ils n'ont pas mis deux journalistes, des vrais journalistes, en face de lui pour lui poser les bonnes questions, pour ne pas lâcher quand il répond la langue de bois Je comprends pas.
Hier soir, Nicolas Sarkozy nous a expliqué avec un grand brio qu'il avait non seulement sauvé l'Europe, mais aussi sauvé le monde. Et que tous les malheurs qui nous accablent à l'heure actuelle sont dus aux 35 heures, et donc, par conséquence, à Martine Aubry. Je trouve qu'il a été quand même assez gentil et assez conciliant. Martine Aubry n'est pas responsable que de cela. L'augmentation du nombre de cancers, c'est Martine Aubry. Le sida, c'est Martine Aubry. La catastrophe au Japon, c'est Martine Aubry. La disparition des dinosaures, c'est Martine Aubry. Alors que lui, Nicolas Sarkozy, passe son temps à sauver le monde. Je crois que tous ensemble, nous devrions dire « Hip, 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 hourra !» pour Nicolas Sarkozy, notre grand commandeur en chef.
Alors notre président manque d'idées pour enflouer les paniers percés européens. Permettez-moi deux propositions, tout paysan que je suis. Première mesure, au 1er janvier, moins 10% sur les retraites et salaires des ministres, députés, sénateurs et hauts fonctionnaires. Deuxième mesure européenne, celle-là, moins 10% sur les retraites et salaires des députés européens, des commissaires et hauts fonctionnaires de Bruxelles. L'exemple vient d'en haut. Faut plus croire que le peuple n'est qu'un robot programmé pour cracher dans les sondages et vomir dans les urnes ce qu'il ingurgite à la télé. C'est fini ce temps-là.
Oui, bonjour à tous. Juste pour dire que Jean-Pierre Pernaut cesse d'être aussi agressif, d'aussi pugnace dans ses interventions. Ça devient un petit peu dérangeant comme ça. Je trouve qu'il va un petit peu trop loin dans sa volonté d'aller chercher des informations. Et donc, si c'est possible, qu'il se calme, parce que franchement, c'est limite indécent vis-à-vis d'un président de la République. Voilà, merci.
Oui, oui, Daniel, salut. Tout ce positivisme de foire, là, je connais par cœur. J'avais été convoqué dans une réunion à la con, comme ça. Je me suis bien marré, parce que moi, je suis psychologue, mais vraiment. Alors, je me suis vraiment bien régalé. Mais en fin de compte, on n'est pas obligé de rigoler de ce genre de trucs, parce que c'est le positivisme de la soumission, c'est aussi l'infantilisation pour dominer, faire passer, faire avaler des couleuvres, etc. Enfin, puis soyez sages, puis maquillez-vous, vous êtes dégueulasse, quoi. Enfin, ça va bien comme ça. Bon, ouais. Mais même en tant que chômeur, on est créateur d'emplois, parce que tous ces gens-là, ils vivent sur la bête, quoi. Hein? Ouais, eux, ils ont des raisons d'être positifs, bien sûr. Ok, allez, bon courage, salut, à bientôt.
Salut Daniel, merci d'avoir diffusé ce sujet hier sur ces séances de coaching là pour les chômeurs. Bien malgré moi, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai assisté à une séance comme ça. Bon, j'ai de la chance, c'était juste en tant que spectateur, je ne suis pas chômeur. Et c'était fait par le groupe LVMH, voilà. Ils ont leur propre cabinet de coaching, comme ça, LVMH. Alors ça s'appelle Coaching Solidaire, voilà, parce que LVMH, je suis aussi dans la solidarité. Et bah oui, ils licencient à tour de bras leurs usines pour délocaliser dans les pays de l'Est. Hein, on se rappelle de cette usine du Nord qui avait fermé. Et après, bah, ils font des séances de coaching. Alors c'était organisé par un groupe, une de leurs sociétés qui vend des produits de beauté. Je ne vais pas leur donner, faire de la pub à l'antenne. Alors on avait des chômeurs là qui venaient se faire la manucure, maquiller, coiffer, on leur apprenait à se relooker. Alors les hommes, on leur disait que par exemple, il fallait pas de poils. Voilà, les recruteurs n'aiment pas les poils. Alors on leur rasait les poils des mains, on leur faisait des jolies mains. Voilà, on en est là. Voilà. Vous voyez un peu le niveau de la connerie de ce truc-là. Et évidemment, les femmes repartaient avec un petit sac rempli de produits de beauté, de la marque, évidemment. Donc en fait, LVMH gagne des deux côtés. Ils gagnent d'un côté en licenciant les gens, pour aller faire fabriquer leur sac à main moins cher ailleurs, et puis gagnent de l'autre côté en faisant des séances de coaching. Enfin, tout ça, c'est fait de toute façon, ça n'a qu'un but, c'est essayer de remettre, c'est de mettre la balle dans le camp des chômeurs pour leur bien leur faire comprendre que s'ils sont au chômage, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils sont pas beaux, c'est parce qu'ils sont mauvais, c'est pas parce que la société est mal fichue et qu'on se fout de notre gueule, non, c'est de leur faute, c'est uniquement le but de ces choses-là, de ces séances-là, c'est d'essayer de culpabiliser les gens et de leur bien faire comprendre, de ne pas se révolter surtout, que s'ils sont au chômage, c'est à cause d'eux, c'est leur image qui n'est pas bonne, c'est lamentable. Allez, salut.
Oui, bonjour monsieur Mermet, je voudrais tout simplement savoir ce que veut dire AMG, Gérard dans le Lot. Bonne journée à vous.
Eh ben Gérard dans le Lot, AMG ça veut dire auditeur modeste et génial, auditrice modeste et génial, voilà ce que ça veut dire AMG. Salut à tous les AMG, merci pour ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale. Nous voilà de retour de Tunisie, on voulait surtout pas manquer l'intervention du président de la République hier soir en France. Alors, ça et là, on entend quelques critiques prévisibles, bien évidemment. Mais n'oublions pas que Nicolas Sarkozy est avant tout un prophète. Un prophète, et ça, les Tunisiens le savent. Ils n'ont pas oublié, au printemps 2008, 3 ans avant le printemps tunisien, 3 ans avant la révolution de Jasmin, Nicolas Sarkozy était en visite à Tunis, à Carthage exactement, accompagné entre autres de M. Frédéric Mitterrand, de M. Serge Moati, et en serrant chaleureusement la main de son ami Zine El Abidine Ben Ali. Il le félicitait, je cite, « Aujourd'hui, l'espace des libertés progresse en Tunisie », disait-il. Et, curieusement, les Tunisiens n'ont pas du tout apprécié. Scandaleuse hypocrisie, coup de poignard dans le dos. On ne sait pas si M. Frédéric Mitterrand ni M. Serge Moati ont réagi, mais les Tunisiens, eux, n'ont pas oublié.
L'un de nos plus grands auteurs, Flaubert, disait avec une certaine justesse qu'en Tunisie, le climat y est si doux que l'on oublie d'y mourir.
Nicolas Sarkozy, 28 avril 2008.
La France est fière d'être le premier partenaire de la Tunisie dans tous les domaines. Soyez convaincu, Monsieur le Président de la République, qu'elle entend rester résolument aux côtés de la Tunisie. Pour vous aider à poursuivre l'œuvre de modernisation et de développement qui est le vôtre, et je mesure bien ce que ça peut représenter comme effort dans un pays comme le vôtre, que de tirer toute la société vers le développement, vers le savoir et vers le respect des individus. La relation entre nos deux pays est faite de confiance, de respect, d'estime et d'amitié. Elle est tournée vers l'avenir. Eh bien, c'est fort de cette conviction, Monsieur le Président de la République, que je veux lever mon verre à votre bonheur personnel, au bonheur de votre famille.
Voilà un extrait de cette intervention et ces compliments décernés à Ben Ali par M. Sarkozy, le prophète. Aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, revient sur une sombre et difficile affaire, celle de Wamara Kagamaté, qui un jour s'est mis à bégayer. C'est une histoire qu'on vous avait raconté en 2009 dans La Basse, j'y suis. C'était un reportage de Charlotte Perry. Et c'est une histoire qui a tourné curieusement. Je vous donnerai la chute tout à fait à la fin, parce qu'il y a une suite et une fin à cette histoire tout à fait singulière, qui, une fois de plus, nous raconte et nous rappelle tout ce que nous avons. Nous détenons d'idées reçues et de clichés intériorisés, d'idées reçues intériorisées, les uns comme les autres, ce qui est très grave lorsqu'il s'agit de la justice du pays, quand il s'agit de rendre la justice, et lorsqu'il s'agit d'une affaire comme celle que vous allez entendre le jour où Monsieur Kagame s'est mis à bégayé. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, allô, Daniel, salut, c'est Hervé de Louviers. Je t'appelle concernant la fermeture d'une usine Emeril à Alizay. 330 employés sur le carreau. Ils organisent une journée porte ouverte ce samedi. Venez nombreux, on a besoin de vous. Salut.
Bonjour Daniel, je me permettais d'appeler parce que j'ai bon envie de part. J'ai entendu deux petites choses. La première, pour faire 50 litres de biocarburant à base de produits alimentaires de base, donc pour faire 50 litres de carburant, il faut détruire 350 kilos de produits alimentaires de base. Ça ferait, a priori, d'après ce que j'ai entendu, un mois d'alimentation dans les pays sous-développés où ils crèvent la dalle. Donc voilà, ça déjà, ça me fout la gerbe, ça me révolte. Et deuxième chose que j'ai entendu, si tu as l'occasion de vérifier, il paraîtrait que les Chinois voudraient aller faire pousser du coton du côté de la Somalie par là-bas à travers. Alors moi, on m'a toujours dit que là-bas, il manquait d'eau. Il n'y avait pas d'eau, et sachant que le coton a besoin de beaucoup d'eau, on voit les dégâts que ça a fait sur la mer d'Aral, alors je m'interroge. Voilà, monsieur Daniel, les bonnes continuations pour ton émission. C'était Gilles de Grenoble. Au revoir.
20 Mara Kamagaté, né en 1962 à Abidjan, a été condamné le 8 mars 2008 par le tribunal de Paris 23e chambre à 18 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français pour agression sexuelle.
Non, je peux pas avouer. Même quand on me met la main dans le feu, je peux pas avouer ce que j'ai pas fait. C'est pas possible.
Violence au pluriel, ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité, injures raciales et séjour irrégulier en France. Le tribunal a décerné mandat de dépôt contre lui.
Personne n'a parlé, personne n'a rien dit, personne n'a écouté. Rien. C'est-à-dire que c'est un noir, on ne parle pas, c'est bon. Mademoiselle, elle a dit ça, c'est bon. Amène-le.
En fait, il s'est retrouvé là au milieu et puis il est passé en comparution immédiate. Mais le problème, c'est que ça s'est fait tellement vite, à la fois au niveau de la garde à vue, à la fois au niveau de la comparution immédiate, que du coup, voilà, il n'a pas eu de jugement équitable, en fait.
Le diable n'existe pas. C'est l'homme qui est le diable, l'être humain lui-même. Voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base et j'y suis avec Charlotte Perry. Comment Varama Kamagaté s'est mise à bégayer?
Flight number 2, arriving from New York.
Je suis de la Côte d'Ivoire. Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis venu ici en France en 1989. Je faisais des bricoles comme tout le monde. Voilà, je travaillais dans des chantiers, dans des... Turc de temps en temps, quoi. Je me débrouillais comme ça. Et moi, bon, à ce moment, parce que j'ai pas de Hermes ni aide ou machin, rien. Bon, donc je me débrouille comme ça, doucement, quoi. J'habite de temps en temps chez ma cousine, de temps en temps chez mon cousin. Puis bon, de temps en temps, ça m'arrive aussi où je dors dans la rue, comme tout le monde. Je peux pas aller tout le temps chez eux aussi, quand même. Hein? C'est comme ça, quoi. C'est ce que je vous dis, quoi. Après, bon, on n'a plus peur de rien. Hein, à force que ça arrive régulièrement, on n'a plus peur. Ça devient une habitude en attendant que bon, ça vient, quoi.
Ça, quoi. Mais là, ce qui vous est arrivé, c'est quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer.
Non, je ne savais pas que ce cas pouvait m'arriver. Je n'ai même pas imaginé une fois ça. J'ai vécu ça aujourd'hui. Bon, je suis obligé de le faire avec. Ça ne peut pas sortir dans ma tête. C'est pas possible. Ça va rester dans ma tête durant toute la vie. Je ne peux pas oublier. C'est pas possible. En ce moment, je dors dans un squat, dans un garage. Ouais, dans un garage, j'ai un ami qui a un garage. Il ramasse aussi souvent des stocks. Bon, ça soit des réfrigérateurs, ça soit de gazinières, ça soit de... voilà, non, parce que je suis resté beaucoup au dehors. Au lieu qu'il reste au dehors, de dormir au dehors, je vais dans son garage, je me repose là et tout, tranquillement, tous les soirs. Bon, voilà. Bon, c'est pas une maison, mais c'est un garage. Heureusement qu'il y a des amis à moi qui ont mes bagages, mes vêtements et tout gardés à gauche, à droite, chez ma cousine. Comme ça, quoi. Parce que c'est pas du tout facile. C'est pas une vie facile pour moi. Bon, ça c'est comme ça depuis 17 ans. Moi, je suis obligé de m'habituer à ça et tout, et tout. C'est jusqu'aujourd'hui. Donc, à gauche, à droite, quand il fait froid, mon cœur bat comme ça pendant toutes les années. Jusqu'à à ce qu'on me prend, on me met dans l'enfer, en plus, avec tous ces problèmes-là. Vous voyez ce que ça fait en tant qu'être humain. Et puis surtout, à l'âge de 47 ans, c'est pas facile, tu vois.
Il ne parlait pas comme ça avant. Il faut tendre l'oreille lorsque Varama Kamagaté parle aujourd'hui. Il a encaissé, il a subi ce qui nous hante tous. Il y a un mot dans la langue française qui est kafkaïen. Qu'est-ce que c'est kafkaïen ? Qu'est-ce qu'on entend par kafkaïen ? On veut dire que c'est compliqué, on n'y retrouve plus, c'est labyrinthe. Mais c'est autre chose aussi, le Kafka du procès. Le Kafka du procès, c'est quelqu'un qui est parfaitement innocent, mais qui est arrêté et qui est accusé, il ne sait pas de quoi. Et qui va s'accuser lui-même. Non pas s'accuser lui-même, mais qui se dit, si les autres m'accusent, c'est sans doute qu'ils ont raison après tout. Il y a quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé à Varama Kamagaté. À des niveaux plus ou moins conscients, bien évidemment. Mais c'est bel et bien ce qui lui est arrivé. Comment ça lui est arrivé ? Eh bien, avec une fausse accusation. Une accusation imaginaire. Et lui constitue évidemment un idéal bouc émissaire, SDF, sans papier, noir de surcroît. Bien sûr, personne n'est raciste, mais... Il y a quelque chose, quand même, au fond des imaginaires, dans le préjugé. Entre le loup patibulaire et la frêle et tendre brebis, les jeux sont faits, le parti est pris. Entre le gros et gras patron et son angélique secrétaire qui l'accuse de harcèlement moral, les jeux sont faits, les partis sont pris. Entre l'instituteur homosexuel et le gamin de 8 ans qui l'accuse d'attouchement, les jeux sont faits, les partis sont pris. Puissance, puissance, puissance du préjugé, de l'idée reçue. Mais la justice est là pour lutter contre le préjugé. La justice, c'est juger, ce n'est pas préjuger. Or, bien sûr, les juges, les magistrats sont des êtres humains, c'est-à-dire perclus de préjugés. Eh oui. Et c'est ce qui a fonctionné dans cette histoire. Le préjugé a été plus fort que le jugé. Mais vous allez voir, c'est une histoire édifiante. Terrifiant. Des histoires comme celle-ci, des histoires d'erreurs judiciaires, il y en a peu qui sont reconnues par la justice elle-même. Très très peu. C'en est une, elle s'est passée hors de l'emballement médiatique. Il y a eu quelques papiers, quelques échos, mais très peu. Assez peu pour que nous penchions sur cette histoire jusqu'à 16 heures. Dans la base, j'y suis, comment Varama Kamagaté s'est mis à bégayer.
Les issues de secours sont bloquées. Les auditions ont déjà commencé. Un accord de piano en résonance. Face au juge, face au juré. L'avocate demande au tribunal d'excuser les balbutiements pitoyables de son client. Le procureur n'en croit pas un mot. Vous pouvez tout remettre en cause. Ce pourquoi vous êtes accusé. Ou simplement nous raconter comment vous en êtes arrivé là. Si tu dessines le diable sur ta porte, il finit par rentrer chez toi. Si tu dessines le diable diable sur ta porte. Il finit par rentrer chez toi. Verrouillage, les issues de secours sont bloquées. Dans la grande salle, les employés rassemblent les pièces à conviction, les fausses factures, les avantages en nature, les bulletins de salaire, les billets d'avion. Tout ce que vous allez déclarer pourra être retenu contre vous. Votre honneur, une douleur lancinante à perdre la raison. J'entends leurs pas qui me rattrapent. Quelqu'un enfonce un clou dans mon crâne. Je suis prêt à me mettre à table. Prêt à régler l'addition. Si tu dessines le diable sur ta porte, il finit par rentrer chez toi. Diable sur ta porte, il finit par rentrer chez toi. Si tu dessines le diable sur ta porte, il finit par rentrer chez toi. Si tu dessines le diable sur ta porte, il finit par rentrer chez toi.
Tamara, racontez-moi ce qui vous est arrivé alors. Comment est-ce que les policiers vous ont arrêté pour commencer ?
On m'a arrêté à Bastille parce que je partais chez un ami à moi qui m'a invité avec sa femme. Donc quand je partais, il y avait des gens qui étaient assis sur le banc, et moi je suis arrivé, bon, il faisait beau, j'ai pris une petite bière, je m'assois, donc ils sont arrivés tout de suite avec les bagnoles, ils sont venus nous contrôler tout le monde, comme moi je n'avais pas mes papiers sur moi, bon, ils me disent, bon voilà, vous venez avec nous comme ça, rien. Voilà comment ils m'ont mis au centre d'intention. Dans le centre d'intention, il y a fait 2 semaines, bon, ils m'ont amené à la justice pour des immigrés, c'est normal. Ouais, bon, vous allez aller chez vous, dans votre pays, machin. Ils m'ont fait tous ces trucs-là et tout. Et à midi, ils finissent de manger dans le centre d'orientation. Et on me dit, ouais, vous venez, monsieur Kamagaté, vous venez avec nous au commissariat, il y a un problème. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce problème-là ? Non, vous allez venir, il y a un problème au commissariat. Voilà, vous avez fini avec le centre d'orientation, vous venez avec nous au commissariat. Arrivé là-bas, on me dit, bon, voilà, mademoiselle dit que ouais, elle vous a choisi, elle a dit que c'est vous qui l'avez touché, c'est comme ça.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit au commissariat qu'elle avait déposé plainte pour
quoi ? Les policiers me disent que ouais, bon, elle avait déposé plainte parce que quelqu'un l'agressait, l'a touché. Il lui a touché sa poitrine et mis sa main dans sa culotte et tout. Voilà, c'est des trucs. Tu sais, bon, chez nous, bon, nous les Africains, on a un peu honte d'entendre ces mots comme ça. C'est pas possible, quoi. Voilà. J'étais tellement dépassé et je les ai dit que bon, moi je n'ai rien fait à personne. Il ne sait même pas de quoi vous me parlez. Et ils sont allés me mettre derrière un miroir comme tout le monde au commissariat. Et la fille, elle est derrière, comme ça, elle dit, ouais c'est lui. Elle dit, oui, c'est lui. Et ils me disent, bon, écoute, dites que vous avez fait une connerie. J'ai dit, mais non, quelle connerie, j'ai rien fait. Je ne peux pas avouer ce que j'ai pas fait. Et je suis resté avec le même mot jusqu'à la justice. Devant monsieur le juge, je l'ai dit, monsieur le président, moi, je n'ai rien fait. On dit, mais monsieur Kamagaté, vous dites que vous n'avez rien fait. Il dit, oui, j'ai rien fait. Bon, il me dit, bon, comme vous dites que vous avez dit que vous n'avez rien fait, vous allez partir en mandat de dépôt. Donc voilà pourquoi je me suis retrouvé en prison le même soir. Donc le même soir, j'ai failli péter les plombs. Je parlais tout le temps, tout seul. Pendant une semaine, j'étais tout seul dans une cellule et je parlais tout seul parce que je ne crois pas. C'est comme un rêve, je ne crois pas. Je me dis, je suis là pour quoi ? Parce que je n'ai jamais été en prison dans ma vie, ni chez moi, dans mon pays, ni ici. Voilà ce qui m'est arrivé, quoi. Et en 2 mois, il y a un autre avocat qui vient me trouver en prison qui me dit, ouais, monsieur Kamagaté, vous avez été déjà jugé, vous avez 18 mois de prison ferme. C'est à partir de là que j'ai commencé à... Ma tête a commencé à tourner, quoi. J'étais plus normal.
18 mois. Voilà. Il s'est pris 18 mois à Bamara Kamagaté. Pourquoi ? Parce qu'il vient de nous le dire.
Un soir de 2008, une jeune femme se rend au commissariat dans le 11e arrondissement et elle porte plainte contre un SDF qui l'a violentée, dit-elle. Et qui n'a pas violé, c'est pas un viol, mais ce sont des attouchements, des insultes, dit-elle. Et l'enquête commence au niveau policier. On va revenir sur tous les détails de cette histoire invraisemblable. Il va être condamné à 18 mois de prison, sauf qu'au bout de 6 mois, on va lui dire, écoutez, non, il y a eu une erreur. C'est même pas une erreur, c'est un faux témoignage. Cette jeune femme avait tout inventé. C'est une suite de négligence, une suite étrange, une cascade d'erreurs, une fausse victime. Donc, des policiers qui font leur boulot avec beaucoup de distraction et peu de discernement, et un tribunal qui l'accuse avec très peu de preuves, mais ça, c'est le lot de la comparution immédiate. Des éclaircissements avec Maître Françoise Margot.
Mon nom, c'est Françoise Margot et je suis avocat à Paris depuis 1973. Un jour donc, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an, je reçois un coup de fil de relations amicales qui me demande si je peux extrêmement rapidement recevoir une jeune femme. Et dans les 2 heures qui suivent, je reçois la visite d'une très jeune femme d'une vingtaine d'années, accompagnée par son père et sa mère. Et la jeune femme m'indique qu'à la suite de dénonciations de faits qui n'ont jamais existé, un monsieur a été condamné à 18 mois de prison ferme. Et qu'elle me mandate pour 2 choses. D'une part, essayer de faire sortir le monsieur de prison le plus rapidement possible. Et d'autre part, rectifier la réalité, c'est-à-dire établir l'innocence du dit monsieur. Donc pour moi, l'affaire a commencé dans ces conditions-là. Donc on se retrouve quelques jours après avec ma jeune cliente, où je lui annonce que le monsieur est en détention naturellement et qu'il n'a pas fait appel du jugement, que le jugement est par conséquent définitif et que par conséquent, si on veut faire sortir le monsieur de prison et voir rétablir la réalité, il n'y a qu'une seule procédure qui n'est vraiment pas commode, c'est la révision du procès. Et je me retrouve donc en train de me dire, la première chose à faire, c'est probablement d'aller voir le magistrat qui a rendu cette funeste condamnation. Je débarque donc dans son cabinet. Je tombe sur un monsieur en bras de chemise, il faut dire qu'on était probablement au mois de juin, qui me dit « Mais que puis-je faire pour vous ?» Et ma réponse est « Monsieur le juge, je viens vous dire que vous avez commis une erreur judiciaire. » Entre nous soit dit, je pensais qu'il allait me foutre à la porte de son cabinet. Il pouvait dire « Mais qui me dit que votre cliente dit maintenant la vérité ? L'affaire est close, le jugement est définitif, je suis dessaisie du dossier. » Tout ça était vrai. Pour les magistrats, il n'y a pas de responsabilité professionnelle. On l'a encore vu dans le dossier d'Outreau. On l'a vu qu'il n'y avait pas de responsabilité professionnelle stricto sensu des magistrats. À contrario, ce type, il dit « Pas du tout ». Il dit « Ah, mon Dieu, mais je me souviens parfaitement de cette affaire. Maître Margot, que pouvons-nous faire ensemble pour rétablir la réalité ?» J'ai donc pris rendez-vous au parquet et monsieur le vice-procureur m'a indiqué qu'il avait demandé une nouvelle enquête. L'enquête révélait qu'effectivement ma jeune cliente avait dénoncé des faits qui n'avaient pas eu lieu, même si, dans le passé, quand elle était adolescente, elle avait été victime de tels faits qui n'avaient pas été poursuivis. Donc, elle avait parlé à ses parents, qui l'avaient fait suivre par un psy, mais son statut de victime n'avait pas probablement été suffisamment reconnu pour elle. Son jeune copain, qui était flic et à partir duquel toute la première affaire avait commencé, avait été entendu. Bref, tout le monde avait été entendu. Il était clair pour le parquet, semble-t-il, qu'il ne s'était jamais rien passé. Et par conséquent, le dossier a suivi son cours. Et dans les 3 mois, M. Kamagaté a été remis en liberté au mois de septembre. Puis l'affaire a pu revenir devant la Cour de cassation. Donc... pour rétablir la réalité.
Il a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il lui était reproché d'avoir, à Paris, le 6 février 2008, pincé les seins et caressé avec la main le sexe d'Alexandra G.
Des accusations comme ça, ça fout la honte !
D'avoir soulevé celle-ci du sol par le cou, en lui rentrant les doigts dans les côtes, en lui crachant au visage, en la poussant en arrière, ses violences ayant entraîné 10 jours d'incapacité.
Je peux pas faire un truc comme ça. Devant le public, on parle de ça, on dit « mais c'est toi qui as fait ça, là ». Vous t'entendez rien faire, ça fout la honte, et puis tout le monde te regarde.
De lui avoir dit « tu vois, dans mon pays, les salopes dans ton genre, on leur arrache les seins. Ça aussi, le sexe, on leur coupe. Et casse-toi maintenant, sale pute. »
Vous t'entendez rien faire, ça fout la honte, et puis tout le monde te regarde.
Voilà, elle a tout inventé, elle avait inventé ce témoignage. Ça arrive, bien évidemment, mais pour que ça n'arrive pas, eh ben, il y a la police qui est là pour poser des questions. Il y a ensuite la justice pour faire la justice et non pas se contenter d'approximations et de préjugés. Alors on vient d'entendre cette avocate, Françoise Margot, toute contente, elle a bien raison, des résultats obtenus, sauf que Varama Kamagaté a beaucoup souffert.
Je suis resté en prison comme ça pendant 3 mois. 4 mois, je suis tombé malade. Parce que j'étais avec 2 personnes dans une cellule. Donc on était 3. Et tous les jours, je leur expliquais toujours les mêmes choses. Donc, bon, monsieur un peu plus âgé, déjà bien. Donc qui me dit, mais c'est pas vrai, monsieur qui m'a raté. Mais c'est ce qui est sûr, il y a quelque chose qui cloche parce que tu es quelqu'un de bien, C'est quelqu'un de positif, quoi. Mais tu répètes les mêmes mots tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose qui... C'est pas normal, quoi. Donc là, je suis tombé malade parce que je voyais plus clair. Je voyais plus un soir. J'ai fini de manger et je voyais plus clair. Tout était noir devant moi. Et j'ai commencé à baver maintenant, tout seul. Je suis dans le lit, je ne peux plus bouger. Je bavais. Donc j'ai un nerf qui tournait là, dans le cerveau. Parce que je ne crois pas, à force de parler, je ne crois pas. Donc, ils sont venus me chercher. Et heureusement qu'ils étaient là, ils ont tapé la porte, les surveillants sont venus, ils m'ont pris, tout seul, ils m'ont mis dans un lit, ils m'ont amené à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, je suis resté à l'hôpital pendant 12 jours. On m'apprenait à parler pendant 4 jours. Je ne parlais plus, je n'arrivais plus à prononcer les mots, il fallait qu'on m'apprenne. Parce que je ne bégayais pas. C'est tout ça que vous dites, non, c'est à cause de tous ces problèmes-là. Voilà, parce que je ne bégayais pas avant, non. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé en tout cas. Donc ils sont obligés de m'emmener dans une machine, un scanner, tout, deux fois. Ils m'ont fait des piqûres, des comprimés et tout, bon, voilà. Ça a commencé à aller, un peu. Bon, je suis resté là pendant 12 jours. 12e jour, ils sont venus me chercher pour m'emmener en prison. Bon, au bout de 6e mois, un soir, on vient me taper à la porte à 19h30. On dit, ouais, monsieur Kamagaté, vous êtes libre, vous pouvez faire votre pactage, bon, on va vous faire sortir des prisons. Vous êtes libre. Donc c'est là, je suis sorti, arrivé à la porte, ils m'ont accompagné et tout. Ils m'ont donné un mot, et puis bon, le nom de la mademoiselle est là-dedans et tout, tout ce qui s'est passé. Tous les mensonges, tout est écrit là-dedans. Bon, je ne sais pas lire, mais ils m'ont lu le papier avec les dossiers de sortie. Bon, j'étais pas trop bien, quoi. Bon, j'étais obligé d'aller m'asseoir quelque part auprès d'un canal, tranquillement, réfléchir un peu, quoi. Parce que jusqu'à présent, je ne crois pas. Souvent, ça vient dans ma tête. On ne peut jamais oublier un truc comme ça, parce que c'est la vie humaine. C'est la vie de quelqu'un. Je pouvais mourir. Normalement, il y a quelque chose qui pouvait m'arriver, mais pour rien. Parce que, bon, en plus, celle qui m'accuse, je ne la connais pas. Je ne sais même pas à qui j'ai affaire jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une blonde, si c'est une brune, ou quoi, je ne connais pas, je ne sais pas. J'aimerais la voir, voilà, en face, comme ça, voilà. Comme ça, ça peut me soulager un peu. Elle va me demander des excuses tranquillement devant moi-même. Et comme ça, c'est bien, quoi. Nous sommes des humains ou pas?
Barama Kamagaté voudrait rencontrer cette femme parce qu'il ne l'a jamais rencontrée. Peut-être qu'il l'a croisée. Il vit avec cette hantise-là, il vit avec une autre hantise. C'est que si cette affaire est jugée, c'est pas pour autant qu'il est réparé. Et c'est pas pour autant qu'il est indemnisé. Alors là, c'est encore plus problématique, mais c'est qu'il est aussi sans papier. Il y a deux volets dans cette affaire. Le point de vue de l'avocate Françoise Margot sur le témoignage des victimes.
Alors, on a un vrai problème en France, mais peut-être ailleurs. Sur la parole des victimes. On l'a vu au procès d'Outreau, sur la parole des victimes et des victimes enfants. Et on considère encore, en France, me semble-t-il, dans l'immense majorité des affaires, qu'une victime, à la condition que ce soit un enfant, une jeune femme, une vieille dame, ne saurait mentir. Et donc, au lieu de penser que tout le monde peut mentir, on a tendance à présupposer que la parole de la victime ne peut pas être niée. Et là-dessus, il devrait y avoir un travail extrêmement important de fait, car moi, j'ai la conviction et j'ai eu la preuve dans un certain nombre de dossiers que les gens qui se présentaient comme des victimes ne l'étaient pas toujours ni obligatoirement. Il y a beaucoup d'autres choses à dire dans l'affaire de M. Kamagaté. Pourquoi n'a-t-il pas fait appel? Comment se fait-il, puisqu'il était défendu, que son avocat ne le lui ait pas indiqué ou plus probablement ne se soit pas fait comprendre de M. Kamagaté? Comment se fait-il qu'au moment où on est écroué dans une maison d'arrêt, personne ne vous dise « Monsieur, nous vous rappelons que depuis votre condamnation, il y a un délai de 10 jours pour faire appel ?» Moi, je suis extrêmement choquée par cela. Voilà un monsieur qui, semble-t-il, a passé ses 6 mois de détention à revendiquer son innocence et auquel personne ne dit qu'on peut faire appel de sa décision de condamnation. Il avait une possibilité d'appel. Et s'il avait fait appel, s'il avait su qu'il pouvait faire appel, lorsque j'ai été saisie, l'affaire aurait été encore pendante devant la cour d'appel. Il aurait fait 2 mois et demi de prison. 3 mois, pas 6. Et parce qu'il n'a pas fait appel, il a déclenché une machine judiciaire qui, dans le cas d'espèce, est allée extraordinairement vite. Mais ça a pris 6 mois. Pour qu'il soit mis en liberté. Alors là aussi, il y a d'autres choses à dire. Il a été mis en liberté au mois de septembre. Pourquoi au mois de septembre? Parce qu'au mois de juillet, au mois d'août, ce sont les vacances judiciaires. Il n'y a que cette raison-là. Il n'y en a aucune autre. Il ne s'est rien passé dans le dossier de Kamagaté en juillet et en août. Il aurait très bien pu comparaître devant la chambre de l'instruction qui l'aurait remis en liberté si elle avait siégé suffisamment souvent pour prendre l'affaire Kamagaté. C'est ahurissant. Ce sont les vacances.
Ils ne m'ont même pas écouté. Voilà quoi. Je n'avais pas de témoins derrière moi. Personne. Je ne suis pas au courant de rien. Je ne sais même pas si on fait appel en prison, il paraît qu'on fait appel.
C'est ça, pourquoi vous n'avez pas fait appel?
On m'a pas informé. On m'a pris, on m'a mis dans un coin. Voilà.
Personne ne vous a dit que vous pouviez faire appel?
Rien. Personne ne m'a rien dit. Et il y a un petit flic, un petit policier à la con. Je me rappelle très bien de ce petit policier-là. Je ne sais pas si c'est un inspecteur de la police qui m'a interrogé pendant toute la journée jusqu'au lendemain. Il m'interrogeait, je dis je n'ai rien fait. Et il s'appelle Charlie, ce policier-là.
Et je lui ai dit, mais écoute-moi, monsieur l'agent, je vous dis que je n'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit, ouais, monsieur Kamat, dites quand même que vous avez fait une connerie quand même. Or, c'était le petit copain à la folle là qui m'a mis dans ces problèmes-là.
C'était son petit ami?
Oui, oui. C'est la femme des policiers, non? C'est sa copine des policiers. Il n'y a pas eu d'enquête. C'est normal. Voilà, c'est lui le Dieu. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu as touché à sa copine, alors il faut aller en prison. On ne doit pas juger. Ah non, c'est la femme d'un policier. Amenez-le. C'est un noir. Allez, amenez-le. Ce n'est pas la peine de l'écouter. Écoute ta fille. Au lieu de chercher à comprendre. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle société ça? En réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justice là. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est pas normal. Putain. Mais comment ça se fait que vous traitez les gens comme ça? C'est quand même méchant. On appelle ça la méchanceté.
Puis on appelle ça aussi une grosse erreur judiciaire quand même.
En réalité, ça ne doit pas se faire. Personne n'a parlé, personne n'a rien dit. Personne n'a écouté. Hein? Voilà quoi. Personne n'a parlé, personne n'a rien dit, personne n'a écouté. Rien. C'est-à-dire que c'est un noir, on ne parle pas, c'est bon. Mademoiselle, elle a dit ça, c'est bon. Amène-le. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis ces mots-là, je me rappelle de la femme qui est la procureure, la femme procureure, elle a une grande femme là, je me rappelle très bien d'elle. Au jugement, j'ai dit qu'il n'a rien fait. La femme, elle était assise au bout là-bas pendant que tout soit assis. La dame, elle est procureure, elle me regarde de l'autre côté, elle dit, mais il est en train de nier là. T'as vu ça? T'as vu le diable? C'est ça qu'on appelle. Écoute-moi, le diable n'existe pas. C'est l'homme qui est le diable, l'être humain lui-même. Voilà. Parce qu'on se fait du mal entre nous pour rien.
Cour de révision. On entend rarement parler de la cour de révision. Il a fallu que le juge qui avait commis cette erreur judiciaire le reconnaisse cette erreur. Il n'était pas du tout obligé. Il n'y a pas de responsabilité professionnelle dans ce cas-là. On est avec Anne Sevaux, maître Sevaux, qui a été l'avocat de Varama Kamagaté devant cette cour de révision.
Je m'appelle Anne Sevaux, je suis avocat associé auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation. J'ai été sollicitée pour défendre M. Kamagaté devant la Cour de révision après la décision de la Commission, c'est-à-dire à partir du moment où la Cour de révision a été saisie.
Qu'est-ce que cette affaire révèle, selon vous, notamment au point de vue du fonctionnement de la justice?
Elle révèle des choses qui sont un peu tristes parce que c'est une affaire où on n'a pas de comportement méchant, pervers, de gens particulièrement incompétents qui auraient voulu mal faire. On a des gens qui ont fait preuve de diligence et qui, malgré cette diligence, sont parvenus à une décision complètement aberrante parce qu'on a le sentiment que toutes les précautions, toutes les bonnes pratiques qui auraient dû être suivies ont sauté. Les policiers n'ont pas fait les vérifications qui s'imposaient au vu des déclarations des victimes. Les juges n'ont pas eu d'esprit critique non plus sur le dossier. La défense, je ne me prononcerai pas sur les conditions dans lesquelles elle a été assumée. Elle l'a sûrement été dans les conditions habituelles de la 23e, c'est-à-dire dans des conditions malheureusement de précipitation et d'un manque de moyens criants. Mais le résultat est qu'on a une personne condamnée à 18 mois de prison pour des faits totalement imaginaire. L'accusation a un petit côté, touche pas à la femme blanche, certains. On a fait en fait une poursuite qui a été assise sur le sentiment de la non-crédibilité de M. Kamagaté et du sentiment de crédibilité que donnait la victime, mais sans le moindre élément objectif étayant l'accusation ou la simple existence de l'infraction. L'inégalité, elle était certaine dans le contact avec les policiers, hein, puisqu'on avait une jeune femme ayant fait des études secondaires et s'apprêtant à faire des études supérieures d'un côté, et puis un SDF illettré et analphabète de l'autre. Mais j'ai surtout le sentiment, moi, d'une enquête judiciaire et d'une justice de pauvres, avec des moyens de justice de pauvres. Et tout ça fonctionne pas bien. La justice a incontestablement besoin de moyens, de temps, de réflexion. Et on voit très bien ce que peut donner lieu une justice expéditive, car ça a été une justice expéditive.
Mais ce qui est quand même choquant, c'est que pendant tout le long, personne ne l'a écouté. Il clamait son innocence, il n'a jamais avoué. Personne ne l'a écouté, il a été transparent.
Oui, il a été complètement transparent, il a été complètement inaudible. C'est un fantôme. Ça a été un fantôme sur nos trottoirs, ça a été un fantôme dans la procédure. Nous avons à la fois un regard critique à apporter sur les conditions générales de fonctionnement de la justice pénale, mais aussi du regard que nous portons sur ce genre de personnes, sur ces personnes qui, quand on passe à côté d'elles, on ne les voit pas. Je crois qu'on ne l'a pas vu non plus dans toute la procédure et qu'on n'a pas voulu le voir. Non, il a été absent. C'était un objet. Personne ne l'a entendu, personne ne l'a informé. On est allé le chercher au centre de rétention, on l'a mis en garde à vue. De la garde à vue, il est passé au dépôt du palais, du dépôt du palais à l'audience correctionnelle, et de l'audience correctionnelle à la détention. Et puis un jour, il est ressorti avec une décision de la commission de révision, disant qu'il y a peut-être effectivement moyen de révision, et ordonnant sa libération. Et entre ces... Il a été déplacé comme ça, comme un pion, sans avoir du tout la maîtrise de son sort. Et dans un fonctionnement, encore une fois, qui n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, c'est ni extraordinaire dans la façon de fonctionner, ni révélant des personnalités perverses. Mais ça a dérapé. Ça a dérapé quand même, et c'est peut-être ça le plus effrayant, c'est qu'une justice conduite dans les conditions ordinaires de son fonctionnement avec des gens de bonne volonté, compétents et faisant leur métier, peut déraper dans de telles proportions.
La justice des hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main, telle une poissonnière qui pèse les anguilles, raide comme son nom devant les citoyens. Si seulement elle avait un peu plus de sagesse, ou la bonté gouailleuse des femmes du vieux port, je ne craindrais pas tant cette triste maladresse qui arme le tricheur en dépit de ses torts. La justice des hommes est une lourde fille qu'on aperçoit toujours le glaive dans la main, telle une charcutière qui débite la vie en tronçons réguliers, enrobée d'un certain. Si seulement elle avait une lame précise ou la bile tranchant des marchands de Paris, je ne craindrais pas tant de voir des mines grises jugées irresponsables ou blanchies par sursis.
Au-delà de la peine, il y a quand même une double peine, entre guillemets. Au-delà de la peine, il y a quand même des conséquences psychologiques après qui restent pour la personne qui a été condamnée à tort.
Moi, j'ai failli devenir fou, parce que je parlais toujours les mêmes choses tous les jours.
Ça, dans d'autres affaires, hein, ça s'est vu, hein, comme l'affaire Doutreau, donc à partir du moment où il y a des agressions sexuelles, en fait, et surtout quand la personne est innocente, il y a une destruction après qui se fait, hein, psychologique.
Je dis, ben écoute, j'ai rien fait, c'est pas pourquoi je suis là. C'est pas normal qu'il soit là. Parce que je ne sais pas ce que j'ai rien fait, de toute façon, la personne. Pendant tous les jours, je parlais les mêmes choses.
Alors aujourd'hui, on a compris, Varama Kamagaté est en liberté, mais pourtant, l'affaire n'est pas entièrement close, bien évidemment, c'est pas réglé. L'affaire va être rejugée. Anne Sevaux.
Donc là maintenant, l'affaire va être jugée, à la fois l'histoire de l'agression sexuelle, celle de l'infraction aux droits des étrangers, à la législation des étrangers.
La difficulté particulière, c'est que M. Kamagaté a été condamné d'une part pour tous les faits relatifs à l'agression, dont on sait maintenant qu'elle n'existe pas, et d'autre part pour infraction à la législation sur les étrangers, qui est un délit qui est indéniablement constitué dans son cas, puisqu'il était en situation irrégulière et qu'il a la nationalité ivoirienne. Il va donc être rejugé pour le tout, ce qui va être, à mon avis, beaucoup plus délicat pour la partie civile que pour lui, pour le volet agression sexuelle. Ce volet-là ne m'inquiète pas trop. Reste l'ILE, ça, je dirais qu'il serait peut-être assez élégant de la part de l'État français de faire un geste sur sa situation. maintenant.
Élégance, c'est peut-être un peu demandé. Élégance de l'État français. Espérons, espérons, pourquoi pas. Françoise Margot, que nous retrouvons, est l'avocate de la pseudo-victime, mademoiselle Alexandra G., 20 ans.
Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est à quoi M. Kamagaté sera-t-il condamné ? Parce qu'il était en situation illégale en France. Il y a effectivement deux possibilités. M. Kamagaté a fait 6 mois. Peut-être que le plus simple pour le tribunal, c'est de couvrir. Eh bien, grand, tu n'as pas fait 6 mois pour rien. On te condamne à 6 mois. Et donc, tu es immédiatement libre, naturellement. Et puis, on enterre les 6 mois faits. Bon. Il y a aussi une autre possibilité. Le tribunal sera complètement maître de sa décision. On peut très bien le condamner à 3 mois, 4 mois, 2 mois. Ce sont des peines qu'on voit habituellement devant les tribunaux qui ne montent pas obligatoirement à 6 mois pour ce genre de délit. Donc ce sera intéressant parce que dans ce cas-là, ça ouvre peut-être la possibilité pour M. Kamagaté d'être indemnisé.
Et vous, pour votre cliente, est-ce qu'il y aura dénonciation calomnieuse ou quelque Alors, chose comme ça ?
Moi, naturellement, je ne l'espère pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le parquet de Paris m'avait promis, verbalement, qu'il n'y aurait aucune poursuite contre ma cliente, considérant que le courage dont elle faisait montre pour rétablir la vérité n'impliquait pas qu'on la poursuive. Est-ce que M. Kamagaté, par contre, entend la poursuivre ? Je ne le crois pas. C'est ce qui m'a été dit. Mais il lui en reste naturellement la possibilité.
Viens, s'il te plaît.
Donc, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en France. Et pour ma première fois d'arriver en France, c'est le premier métro que j'ai connu, c'était là.
Métro Danube ?
Yes, ça. C'était le premier métro que j'ai vu. J'étais là-dedans, c'était là. Et ma cousine, elle habitait là avec son mari. Après, bon, je suis allé parce qu'elle ne pouvait pas... Il y avait plus de... Ses enfants sont là, bon, tu vois. Donc, moi, ils m'ont mis dans un foyer de Maliens, à Belleville, le foyer qu'on appelle Fontaine-Roi. Donc, ils m'ont amené au foyer et tout. J'ai dormi là-bas et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai pris une douche et tout, dans le foyer. Peut-être, je ne sais pas, c'est... Dieu connaît la galère de chacun. Mais on dirait que je sentais toutes les galères inutiles mais qui allaient m'arriver. Quoi. Parce que j'étais dans la douche, j'ai pris la douche. Quand j'ai fini, je me suis arrêté comme ça. Et j'ai commencé à couler de larmes. Je pleurais tout seul. Parce que j'ai vu mon papa, maman, toutes mes soeurs derrière moi. Ils disent, mais comment... Je suis venu chercher quoi là. On dirait qu'il y a quelque chose qui m'attendait. Parce que vraiment... On dirait que tout était écrit. Il y a quelque chose qui me dit, mais vraiment, vous allez galérer. Pendant 20 ans, j'ai vu des enfants en train de naître ici, qui ont grandi devant moi. Mais pendant tout ça, moi, je suis dans la galère. Il y a des petits policiers qui sont nés devant moi, là, qui vont s'amuser avec moi. Ça fait mal, hein. Il y a beaucoup de choses qui font mal. Hein. Et les filles, là, les flics, là, les petites filles policiers, là, ils viennent comme ça. Ça me fait mal. Ils viennent, les filles, là, elles viennent, c'est moque de moi. Les messieurs aussi, pareil. Ils sont dans les bureaux, ils rigolent. Cac. Oui, c'est quoi ça? Et ce monsieur, le policier là, même cet inspecteur là, j'ai pas fini avec lui. Je lui fais pas la guerre, je lui fais rien, mais je voulais me présenter dans son bureau où il est. Où lui dit que ouais, moi je suis quelqu'un d'honnête. Je suis pas quelqu'un de malhonnête, je vous ai dit ça, c'est tout. Mais que vous mettez dans votre tête que tout le monde n'est pas malhonnête. Vous cherchez à savoir. On ne met pas les gens en prison comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Elle voulait me gâcher ma vie. Mais voilà pourquoi j'aimerais la voir. Mais pas méchamment, mais sur le plan positif. Parce que je ne suis pas méchamment. Je voulais parler avec elle quand même simplement. Pour voir la tête de la personne. C'est normal, non? Tu vois? Je ne peux pas oublier ça tout d'un coup. Je suis obligé. Je vais la voir en face. C'est pas normal, je suis pas un objet. Si on veut voir la réalité.
C'est un objet qu'on prend, on jette et puis on parle plus. On dit bon, tiens l'argent et puis bon, tiens, fais-ci, tiens, c'est cela. Et puis ça finit, tu vois même pas la personne. C'est pas normal. Ça se fait pas, ça. Hein? Ça se fait pas.
La Varama Magaté n'a pas eu de réponse à toutes ces questions. Il est mort le 6 juillet 2011, de mort naturelle entre guillemets, mais il y a certains doutes qui planent autour de son décès le 6 juillet 2011, donc à l'âge de 49 ans. Alors il faut préciser que depuis, c'est la première diffusion de ce reportage dont nous vous avons présenté une nouvelle version, le 1er septembre 2009. Varama Magaté a été reconnu innocent et relaxé le 6 septembre 2010. Il n'a pas été condamné à une peine de prison supplémentaire vis-à-vis de sa situation irrégulière en France, mais la nationalité française ne lui a jamais été accordée. Il n'a par ailleurs reçu aucune indemnisation et quant à lui, il n'a pas souhaité porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre la jeune fille qui l'avait accusée de viol. Il vient de le dire, il aurait simplement souhaité la rencontrer. Il est décédé donc le 6 juillet dernier. Merci à la famille de Varama Magaté, merci à Maître Françoise Margot, Maître Anne Sevaux, à Karima Berkouki. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
On fait quoi ?
Ça dépend. C'est combien le montant d'une jackpot loto de ce samedi ?
12 millions d'euros.
12 millions d'euros ?
Ouais.
Bon, ben on va jouer.
Ok, je te suis.
Montant à partager au rang 1, voire règlement.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Ah, pour moi, c'est sûr. Tenez, ma chambre froide est tombée en panne et toutes mes marchandises étaient perdues. Vous imaginez la catastrophe ? Il fallait trouver une solution.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Ils ont pris en charge les réparations de ma chambre froide et les marchandises qui y étaient stockées m'ont été remboursées.
MMA l'a fait.
Bien sûr. C'est qui les clients pros ?
C'est nous ! Zéro tracas. Zéro blabla. MMA.
Offre soumise à condition.
Ce soir à 20h, face au film, en clair sur Cineplus. Pierre Zeny reçoit l'équipe du film qui fait l'événement. Du réalisateur au chef opérateur, en passant par les acteurs, tous répondent au feu creusé des questions de la presse et des internautes. Retrouvez Face au film, ce soir à 20h sur Cineplus, en partenariat avec France Inter.
16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Les infos Marina Capitaine. Salut.
Le chef de la police française, Frédéric Pechenard, entendu en ce moment comme témoin assisté à Paris. L'enquête porte sur l'espionnage d'un journaliste du Monde visant à identifier sa source. Les factures téléphoniques détaillées ont été récupérées. Dans le même dossier, le patron des renseignements généraux a déjà été mis en examen. Jean-Claude Meunaux, lui, est à la tête de la police du département du Nord, mais plus pour longtemps. Il quittera ses fonctions mercredi prochain et la nouvelle tombe au lendemain de sa garde à vue dans l'affaire du réseau de proxénétisme à Lille. Un départ qui était attendu par Benoît Lecomte du syndicat Alliance dans le Nord.
Ce n'est pas une surprise, mais ça intervient rapidement. Le départ du directeur est annoncé pour le 2 novembre. La direction centrale a dû estimer qu'il a une part de responsabilité dans l'affaire du Carlton. Alors, est-ce qu'il était au courant et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires, ou il ne l'était pas, et cela peut être considéré comme une faute professionnelle. C'est sans doute comme ça qu'a raisonné la direction centrale. Quand on s'investit tous les jours dans son métier, quand on a de très bons résultats, puisqu'il faut souligner que le département du Nord est primé pour ses excellents résultats, je comprends que le directeur puisse partir avec amertume.
Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a eu aussi l'affaire Néret juste avant que le ménage, entre guillemets, est fait si vite dans le Nord ?
Oui, c'est aussi une des conséquences de l'affaire Néret. On s'y attend, hein, à chaque fois qu'il y a une grosse affaire comme ça dans un département. Souvent, il y a un fusible et c'est le chef de service.
Propos recueillis par Élodie Guéguin, le patron de la police du Nord n'est pas poursuivi pour le moment dans cette affaire de proxénétisme, mais selon une source judiciaire, il pourrait l'être pour recel d'abus de biens sociaux. Jackpot pour Renault. Aujourd'hui, le constructeur remporte l'appel d'offres lancé par des entreprises françaises et par l'État. Il va les équiper en voitures électriques. Ça représente plus de 15 000 utilitaires Kangoo sur 4 ans, en majorité pour la Poste. L'annonce tombe à pic le même jour que le lancement du véhicule dans les points de vente. Une rechute de la consommation des ménages français en septembre dernier. L'INSEE annonce aujourd'hui cette baisse de 0,5% et l'explique par le recul des dépenses en énergie notamment. Le nouveau gouvernement tunisien sera formé dans les 10 jours selon Ennahda. Le parti islamiste sort grand vainqueur des élections et il veut aller vite. Les discussions vont bon train avec les partenaires possibles. Dans le journal Le Monde, daté de demain, le chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, déclare, je le cite, « Nous sommes prêts à une coalition avec tous les partis qui ont été dans l'opposition à Ben Ali et peu importe leur idéologie ». L'avenir de la Libye, avec aujourd'hui des traces du fils de Muammar Kadhafi. Il aurait pris contact avec la CPI, la Cour pénale internationale, qu'il recherche pour crimes contre l'humanité. Le procureur l'aurait assuré du respect de sa présomption d'innocence s'il se rendait.
21h, France Inter sera la Fiesta des Suds de Marseille pour vous faire vivre en direct le concert de clôture Honest John Shop Up, une création inédite de Damon Albarn. Honest John Shop Up, le tout dernier projet de Damon Albarn, chanteur de Blur et de Gorillaz, avec sur la scène de la 20e Fiesta des Suds, Flea des Red Hot Chili Peppers, Tony Allen, Cheikh Tidi Hansek, Fatoumata Diawara, Chagan Electro et bien d'autres. Soirée de clôture de la 20e Fiesta des Suds en direct de Marseille, avec sur scène Damon Albarn et ses invités, à suivre en exclusivité sur France Inter, dimanche, à partir de 21h. France Inter. La différence.
Il est 16h05 sur France Inter, quand la musique donne. Bonjour Didier Varro.
Bonjour Marina, on vous retrouve à 17h peut-être pour d'autres informations. À tout à l'heure, c'est parti.
Quand la musique donne sur France Inter.
En direct de l'espace Argence, c'est 20 bis avenue Gambetta à Troyen. Vous pouvez venir nous rejoindre d'ailleurs pour assister à l'émission. Avec aujourd'hui une nouvelle rencontre dans cette émission, c'est le concept de l'émission. Jean-Louis Aubert qui est là parce qu'il est célébré à travers les Nuits de Champagne et le Grand Choral. Il y a en ce moment même des répétitions juste à côté. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Et pour rencontrer Jean-Louis Aubert, Féloche qui est venu de Paris.
Oui,
c'est cool, hein.
Ça m'a pris du temps. Alors, pour arriver jusqu'à 3.
Vous connaissiez un tout petit peu, mais quand on a proposé l'idée de cette rencontre, tu as dit tout de suite oui.
Ah ben bien sûr, c'est ma. En fait, Jean-Louis, on s'est déjà rencontrés, mais jamais, comme ça, un coup de vent et on s'aime beaucoup, comme ça. Voilà.
C'est vous aimer encore plus, j'espère, après cette émission. Juste avant de rentrer un petit peu dans la conversation, Féloche, puisque tu es un habitué de l'émission et que nous avons parlé juste avant de prendre le direct, tu m'as dit « Ah ouais, le mix libre, c'est toujours le même, je comprends pas bien et tout ça. »
Alors, c'est un mix de la semaine, je comprends pas pourquoi c'est les mêmes titres pendant un mois.
Alors, c'est le mix libre du mois.
Eh ben oui, mais c'est... Voilà. D'accord.
Grâce à toi, je pense que je vais être un peu plus éclairé.
Donc on réécoute les mêmes que la semaine dernière.
Tu sais, composeur,
le sound designer.
Il connaît Varro dans le texte.
Oui, mais c'est formidable. Les podcasts, parce que moi j'écoute à 2h du mat.
Allez, le mix libre sur France Inter.
Il s'appelle Green Shape, une vie qui balance entre Kurt Cobain et Johnny Cash. Une gueule qui aurait pu être cassée par la boxe, mais quand la musique donne, elle peut sauver du chaos sur le ring. Get out of here and go back lead. Wait on your kisses to feel better. Could not bear that she got love. I could not bear that she gets stronger. Voici venir Le Scope. Il fallait bien que le chanteur ténébreux du groupe Asyl se perde dans la forêt pour ressusciter une pop sous influence divine entre Dark et Dao.
Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Si tu
me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne.
Composer, un drôle de nom pour un duo. Lorsqu'un songwriter rencontre un sound designer, il y a forcément du bon son, mais aussi une sérieuse aptitude à faire danser les foules comme il se doit.
The walls are closing in. The forest are gasping for breath. Check, check, check. For breath. Check, check, check. I'm gonna blur into nothing. I'm on a mission. This time I'm on a mission. This time I'm on a mission.
Joachim a pris des coups de soleil qui du même coup ont fait fondre ces monstres fous qui hantaient jadis sa musique. DJ, producteur et désormais roi de la pop, c'est l'Eden Electro.
Life is a deal.